Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
Le livre biblique des Proverbes nous enseigne comment nous comporter avec sagesse sur des thèmes touchant notre quotidien. Nous avons déjà réfléchi sur certains proverbes et à présent nous considérons ceux qui abordent les relations de l'homme envers Dieu. Alain, quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui?
Citons le proverbe au chapitre 10, verset 25. « Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. »
Ce proverbe semble affirmer que l'Éternel protégera les siens des épreuves, telles que les tempêtes ou d'autres catastrophes naturelles, et qui s'en servira pour punir le méchant. Pourtant, nous constatons bien que dans la vie, si une tempête frappe, tout le monde, plus ou moins, en subit les conséquences. Et la différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas n'est alors pas forcément évidente.
L'Éternel est tout-puissant. Il a le pouvoir de protéger les siens de bien des malheurs et en vérité, je pense qu'il le fait souvent sans même que nous nous en rendions compte. Toutefois, vous avez raison de faire remarquer que le chrétien n'est pas forcément à l'abri de toute épreuve. L'Éternel ne lui assure pas d'être préservé d'absolument tous les malheurs.
Qu'évoque donc ce proverbe lu tout à l'heure?
Avant de l'expliquer plus en profondeur, je voudrais vous demander, Yann, si ce proverbe vous rappelle l'une des paraboles racontées par Jésus.
Effectivement, oui. Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui avaient construit chacun une maison. L'un d'eux avait posé ses fondations sur le sable, l'autre sur le roc.
Oui. Lisons à présent cette parabole dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. « Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. » Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète.
Il est vrai que l'enseignement de cette parabole ressemble beaucoup à celui donné par le proverbe lu. Mais revenons à notre question. Que représentent la tempête et les inondations?
La tempête et les inondations servent d'image pour évoquer le jour de l'Éternel. Le jour où chacun se présentera devant lui, le Seigneur est juge de tous. Elles servent d'image également pour évoquer la juste colère de Dieu contre le péché.
Et selon le proverbe et la parabole lue, certains connaîtront la tempête, mais ils en sortiront indemnes et resteront debout. Comment cela est-il possible?
Voici l'une des questions les plus importantes. Comment le jour du jugement de Dieu échapper à son châtiment? La réponse et qu'il faut construire sa vie sur la bonne fondation.
Et quelle est-elle, cette bonne fondation?
Le proverbe lu parle d'une fondation éternelle, et la parabole de Jésus apporte davantage d'éléments. La personne bâtissant sa maison sur le roc est celle qui écoute et met en pratique l'enseignement de Jésus. En croyant en la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ, elle se met à l'abri du jugement divin, car Jésus a payé le prix de nos péchés sur la croix. Il a subi la tempête de Dieu à notre place, et il nous préservera de toute condamnation le jour du jugement si nous avons mis notre foi en lui.
Mais tous ceux qui refusent d'écouter la sagesse des proverbes et qui ne prennent pas au sérieux les paroles de Jésus seront emportés par cette tempête, symbolisant le jugement de Dieu.
Oui, cette image est très parlante. Dieu est parfaitement juste et il a en horreur l'injustice. Son jugement est vraiment à redouter.
Vous avez cité un proverbe expliquant ces choses. Y en a-t-il d'autres?
Oui, vous pouvez lire, Yann, au chapitre 10 des proverbes, les versets 28 et 29.
Volontiers, le sage dit, « L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. » La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre.
Ces proverbes nous éclairent. Ils prouvent la sécurité éternelle que Jésus-Christ assure à celui ou celle qui est juste. Ils montrent également la précarité de celui ou de celle qui s'obstine à pratiquer le mal. Quel sera leur avenir ? Un jour, ils seront déçus de voir que tout ce qu'ils avaient cru posséder dans cette vie et dans l'au-delà ne sera plus. Car lorsque Jésus reviendra établir son règne éternel, la ruine les attendra et il ne se trouvera pas de place pour eux sur la nouvelle terre.
Aujourd'hui, nous terminons notre série sur les proverbes sur une note très grave.
Il est malheureusement nécessaire d'avertir tous les hommes. Les proverbes comparent la sagesse avec la folie. Et c'est de la folie de mener sa vie sans réfléchir à son avenir éternel. La sagesse, par contre, consiste à redouter ce jour de l'Éternel et à chercher à mettre sa vie en règle avec Dieu avant qu'il ne revienne. Celui qui met son espérance en l'Éternel ne sera pas déçu ni dans cette vie, ni dans la vie après la mort. L'Éternel sera pour lui comme une forteresse. Il pourra compter sur lui ainsi que sur sa parole, et selon sa promesse, il y aura une place auprès de lui pour l'éternité.
Merci Alain pour votre participation tout au long de cette série sur les proverbes.
Avec plaisir. Merci Yann et au revoir à tous.
À présent et pour la dernière fois, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des deux jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui, après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouva totalement démuni. En réfléchissant sur sa situation, il prit conscience du mal qu'il avait fait à son père et décide de rentrer chez lui. Mais alors qu'il était encore loin de sa maison, son père l'aperçut et courut à sa rencontre. Il désirait lui pardonner toutes ses fautes passées. Il voulait fêter son retour. Mais comment donc a réagi son fils aîné? C'est ce que nous allons encore considérer.
Le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. » Puisqu'il était perdu, et voici, il est retrouvé.
Nous arrivons aujourd'hui à la dernière de nos discussions sur cette parabole. Flavien, comment voulez-vous conclure ces moments de réflexion?
Eh bien, tout comme nous l'avons déjà fait pour le fils cadet, je voudrais remettre cette deuxième partie de la parabole dans son contexte.
Oui, je m'en souviens bien. Jésus parlait à la foule, dans laquelle se trouvaient des gens de très mauvaise réputation, méprisés par les pharisiens. Ces derniers se croyaient être des personnes respectables parce qu'ils étaient religieux. Or, Jésus dit aux gens de mauvaise réputation que s'ils admettaient leur tort devant Dieu, ils trouveraient grâce et miséricorde auprès de lui. Ils entreraient dans une nouvelle vie, connaîtraient une espérance nouvelle et deviendraient enfants de Dieu. Ai-je raison de penser que dans cette deuxième partie de la parabole, Jésus s'adressait plus particulièrement aux pharisiens?
Bien sûr, Yann. Rappelons-nous que les pharisiens critiquaient Jésus parce qu'ils fréquentaient des personnes de mauvaise réputation et ils leur parlaient de la possibilité de prendre un nouveau départ dans la vie. Or, pour les pharisiens, tout prophète ou enseignant religieux ne devait pas s'approcher d'un pécheur, car en faisant cela, il se rendait, selon eux, impur. Notons le parallèle entre ces pharisiens qui ne se réjouissaient nullement de ce que Dieu, par sa grâce, accomplissait dans la vie des pécheurs et le fils aîné qui ne se réjouissait pas du tout du retour de son frère.
Donc Jésus, confronté aux critiques de l'élite religieuse, leur parle de son ministère aux hommes. Il voulait prouver que le seul vrai Dieu est un Dieu plein d'amour et de grâce, et que ces hommes, ces pharisiennes, en étaient dépourvus.
Oui, mais Jésus cherchait à aider les pharisiens, car il désirait qu'eux-mêmes bénéficient de la grâce de Dieu. À travers l'histoire de ce fils aîné, il dit aux pharisiens « Vous passez à côté de ce qu'il y a de meilleur. En vous fixant des règlements et des lois, vous vous privez de l'essentiel. Dieu voudrait faire de vous ses enfants. »
Donc derrière ces reproches, Jésus adressait aux pharisiens une invitation, tout comme celle donnée aux gens de mauvaise réputation.
Oui, c'est ça. En fait, Jésus met tous les hommes sur le même plan, car tous se sont égarés, loin de Dieu. Certains peuvent mener une vie immorale, être même des criminels, et bien sûr, Dieu n'approuve pas de telles vies. Cependant, à ceux qui désirent sincèrement s'en sortir, qui admettent leur tort devant Dieu, le Seigneur accorde son pardon, et il fait d'eux ses enfants. De même, d'autres vivent loin de Dieu en pensant être des gens bien. Ils croient obtenir la faveur de Dieu en poursuivant une vie respectable et pieuse. Cette voie est trompeuse, car elle conduit à l'orgueil et au légalisme. Dieu n'approuve pas non plus ces personnes, mais il est disposé à pardonner ceux qui se rendent compte de leur erreur et de leur faute, et il fera d'eux aussi ses enfants.
Donc Dieu invite tous les hommes à trouver en lui un père digne de confiance, avec qui une relation épanouissante est possible.
C'est ça. La portée de cette parabole est vraiment merveilleuse. Toutefois, pour conclure, je voudrais mettre les uns et les autres en garde contre l'attitude des pharisiens.
Je vous en prie, expliquez-vous.
Bien, tout comme les pharisiens avaient des préjugés les empêchant de se réjouir de la grâce que Dieu accomplissait dans la vie des autres, nous pouvons aussi avoir des préjugés nous incitant à mal nous conduire. Nous ne devons pas, par exemple, affirmer que l'Évangile n'est pas pour telle ou telle personne, parce qu'elle est issue de notre race, de notre pays. Nous ne devons pas dire non plus que parce qu'elle a commis tel ou tel péché ou subi telle épreuve, Dieu ne l'aime pas. Nous n'avons absolument pas le droit de priver quelqu'un de la possibilité de trouver la grâce de Dieu à cause des critères sociaux, politiques, religieux, tribaux ou autres. Mais nous devons nous réjouir avec Dieu chaque fois qu'il opère un miracle dans les cœurs. Également, nous devons annoncer ce message de grâce à tous, sans distinction.
Nos séries sur les proverbes et la parabole des deux fils perdus se terminent aujourd'hui. Nous remercions Alain et Flavien pour leur participation et espérons que tous vous avez su tirer des leçons de leur enseignement.
À présent, nous vous disons au revoir.
À bientôt et que Dieu vous bénisse.